Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Jeune réalisateur genevois, Frédéric Baïf signe un film dynamique mais sensible sur le thème du célibat des jeunes. Pour réaliser La vie en deux, il s'est inspiré, il le dit notamment, des réflexions du sociologue Jean-Claude Kaufmann dans La femme seule et Le prince charmant. Mais Frédéric Baïf a recueilli et filmé le témoignage de trentenaires qui abordent avec humour, tendresse, la souffrance ou le bonheur de vivre seul. On peut voir ce film aux Galeries à Lausanne ou au Cinébio de Genève. La vie en deux passera très prochainement à Fribourg et à Neuchâtel. Voilà, c'est Anne Marchand qui est à la technique. Karine Vuillameau a choisi les musiques qui nous accompagnent. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric Baïf.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir. Recevoir un réalisateur, un faiseur de films, ça me change un peu des écrivains, voyez-vous, et des thérapeutes. Mais en même temps, c'est un sujet tellement personnel et personnalisé. Qu'est-ce qu'il y a de vous, là, dès le départ, dans ce film? Est-ce que c'est vrai ce que vous dites au tout début du film, Frédéric?
Ouais, il y a la crise, quoi.
Il y a la crise.
Ouais. Il y a le type qui se remet en question, qui se rend compte qu'à force de se remettre en question, il prend le risque de devenir un peu trop nombriliste. Mmh. Et puis finalement, est-ce que la solution, ça serait pas de s'ouvrir plus vers les autres.
Ouais. Donc en fait, vous dites au tout début du film qu'au fond, vous avez eu, vous, une grande baffe amoureuse. Vous êtes pris un bon balai, comme on dit. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se met en route quoi, dans votre tête.
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'après deux, voire trois ruptures amoureuses, on n'a plus 20 ans, on en a 35. Et puis, ça laisse des traces. Et finalement, ça devient peut-être de plus en plus difficile de retomber amoureux. Et j'ai eu envie de parler de ça à travers mon film, parce que j'avais l'impression qu'on était toute une génération de gens qui sont un petit peu paumés en amour, et qu'on est tous, plus ou moins dans notre société, des enfants gâtés, et qu'on est peut-être juste trop centrés sur nous-mêmes, et comment faire, quoi.
Mais est-ce qu'il y a plus de célibataires qu'avant ? Ou qui se déclare telle?
Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une souffrance qui est là, qui est presque un tabou. Parce qu'on parle, on peut parler de beaucoup de souffrance, on peut parler de beaucoup de formes de solitude. Par exemple, on parle souvent de la solitude des personnes âgées.
Oui.
Mais la solitude du jeune, peut-être même jeune cadre dynamique, celui qui est bien intégré, celui qui donne une image de quelqu'un qui va bien, qui réussit, comme moi par exemple, je suis réalisateur, j'ai une activité de DJ, je connais du monde.
Quelque chose d'envier, j'imagine, parce que ce sont des activités.
Ouais, mais c'est de l'ordre de la représentation, quoi.
Ouais.
Et puis du coup, personne ne se doute qu'en fait, derrière ça, je vis des moments de solitude qui sont profonds, qui sont difficiles. Donc j'avais envie de soulever un peu ce tabou-là, et le film parle principalement de ça, et en particulier, je crois que chez les hommes, c'est quelque chose qui est assez étonnant, surprenant, touchant. Dans le public, il y a eu déjà pas mal de projections. Les gens sont déjà ri beaucoup parce que c'est un film léger. C'est une comédie, même si c'est un documentaire, ça reste.
C'est un documentaire, mais en même temps, c'est vrai, il y a beaucoup de clins d'œil, de rire, de soi.
Ouais, j'avais envie de le traiter de cette manière-là, sous forme de comédie, pour rendre le documentaire beaucoup plus accessible. Le documentaire est un art qui a tendance à être un télo, voire un télo chiant. Et j'avais envie que ce soit beaucoup plus ouvert à un grand public. Voilà, ça c'est un peu mon combat. Et puis donc je disais que les hommes se livrant de cette manière-là, j'ai eu beaucoup de retours de femmes dans le public qui ont été surprises et extrêmement touchées de voir que c'est dans la réalité, c'est pas de la fiction. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus fortes, quoi.
Donc les hommes qui se montrent dans ce documentaire, plus fragiles au fond, et plus affectifs que les femmes d'aujourd'hui veulent bien le croire. Parce qu'en fait, c'est ça, plus en quête de vie affective, nourrissante, quoi. Et pourquoi sont-elles étonnées? Elles ne croient pas ça, je pense. Elles ne voient pas ça chez les hommes de 35 à 40 ans.
Ben, je crois que j'ai l'impression qu'elles sont un peu victimes des vieux schémas.
Ouais.
Parce que les hommes sont quand même devenus beaucoup plus sensibles.
Mmh.
Autant que les femmes sont devenues beaucoup plus affirmées.
Mmh.
Donc,
vous avez dit affirmé, vous. Je me demandais ce que vous alliez dire comme mot.
j'ai hésité.
Et oui, entre quoi et quoi et quoi. Parfois, on pourrait dire dur. Hein,
dur, ouais.
Parce que je trouve qu'il y a des témoignages.
Ouais, ouais.
Il y a des femmes qui apparaissent. Je dis apparaissent, parce que derrière, on peut bien imaginer.
Ouais.
On voit bien la fêlure, d'ailleurs, à plusieurs endroits. Témoignages, des femmes qui apparaissent dures, quand même. Défendues, protégées. Ouais.
C'était important pour moi de faire un vrai casting pour répondre à cette question-là. C'est-à-dire que même si on est dans du documentaire, je fonctionne moi en termes de casting.
Mm-hmm.
Parce que c'est les personnages qui vont me faire mon film, raconter une histoire.
Mm-hmm.
Et j'avais absolument besoin d'une femme. Parmi toutes les femmes que j'ai choisies, il y en a trois. J'avais besoin d'en avoir une qui soit une femme moderne, quoi. C'est-à-dire celle qui travaille, qui n'a pas le temps. Tout simplement parce qu'elle est prise par son travail et puis sa priorité, c'est quoi? C'est sa carrière professionnelle.
Mmh.
Et donc, elle se sent quand même un peu piégée par ça, quoi.
Mmh.
Et la solution, elle ne la trouve pas, puisque les femmes se sont battues pour ça. Donc, elle ne va pas remettre ça en question, quand même.
Mmh. Vous
voyez, enfin, c'est...
Oui.
Mais moi, je ne propose pas des solutions, je ne propose pas de revenir à des anciens modes de fonctionnement. Mmh. Parce que...
De toute façon, ça serait impossible.
Ça n'aurait aucun sens.
Cette nostalgie-là ne peut pas être réaliste.
Ouais.
Alors bon, parlons du point de départ quand même, Frédéric. Mmh. Vous avez eu cette envie de montrer donc, cette solitude, au fond, vous disiez, des jeunes, et notamment qui passent par observer les célibataires. Il y a quand même beaucoup de célibataires. Ça veut dire que les gens n'ont pas de relation, mais ils vivent en célibataire. Vous êtes parti de cette idée-là, puis ensuite, comment ça s'est construit? Comment ça se construit, un film comme ça?
J'étais tout simplement en souffrance, mais une souffrance extrême que je n'ai pas connue avant, c'est-à-dire à 33 ans.
Il y a la rupture.
Je me suis séparé.
Ouais. Après combien d'années de...
Après 3-4 ans de relations passionnelles.
Dans un couple qui a vécu ensemble?
En partie.
En partie.
Sur la fin.
Ouais.
Et une déchirure, quoi,
ouais.
Totale. Mais ce n'est pas la première. Et pour finir, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est la troisième fois dans ma vie
que
je me sépare. Non, pas forcément, mais on est censé avoir appris, on est censé avoir grandi, et puis on répète. Donc, j'ai pas vécu cette rupture comme je l'ai vécu à 20 ans, où à 20 ans, c'était plutôt une libération, parce qu'à 20 ans, j'avais envie de courir les filles, quoi. J'ai plus vraiment cette envie aujourd'hui, même si j'ai du désir pour les femmes en général.
Mm-hmm.
J'ai plus cette envie j'ai plutôt envie de me caser. Et
c'est horrible, c'est immédiatement de parler comme ça. Ça fait pas envie, franchement, quand vous parlez comme ça, Frédéric.
J'ai envie de me caser. J'ai envie de construire.
Ça veut dire quoi? Ah oui, d'accord, je préfère.
D'avoir des enfants, tout ça. Et puis c'est... Ouais. C'est-à-dire que la rupture qui vient à ce moment-là, où on a d'autres envies, est beaucoup plus difficile qu'une rupture à l'âge de 20 ans.
Donc c'est ça qui était l'enjeu et qui a fait que c'était si douloureux. C'est que vous étiez vraiment dans un désir de construire.
Tout à fait.
Ouais. Donc c'est une déception, une désillusion... Sur vous aussi.
L'impression de perdre du temps, l'impression de... Mais ce que tout le monde ressent à ce moment-là, hein, l'impression de s'être tellement battu pour que ça marche, et de devoir oublier quelque chose pour lequel on s'est tellement battu. Tout ça, ça a été... ce qui fait que je suis tombé vraiment dans une dépression très profonde. Et puis, pendant cette période-là, je voyais beaucoup d'amis et on passait beaucoup de temps ensemble. On mangeait, on faisait des bouffes. Et vous savez, ces moments... L'idée du film est née à ce moment-là où on est autour d'une table avec des amis et la discussion est tellement intense que tout à coup, c'est un ami qui m'a suggéré, qui m'a dit « Mais Fred, pourquoi tu filmerais pas ça ?» Et c'est vrai que tout à coup, j'ai pris un peu de distance pour la première fois pendant cette période difficile et je me suis dit « C'est vrai, ces moments-là, il faudrait les filmer parce que ça va loin. » Et en fait, le film démarre sur... un moment comme ça où je suis avec mes amis autour d'une table en mangeant une fondue et on se livre. Et c'est là que Vincent, dans le film, dit « J'ai un énorme besoin de tendresse
».
Ce qui est un moment quand même extrêmement touchant.
La couleur est donnée déjà là.
Ouais, complètement.
Ouais.
Donc voilà, c'est à ce moment-là que l'idée est née du film.
Ouais.
Et puis, petit à petit, à travers tout ça, je me suis reconstruit. Alors l'idée, le film, c'était pas pour moi une thérapie parce que à côté, vu que j'étais dans un tel état qu'il fallait absolument que je me remette en question. Donc j'étais...
Vous êtes fait accompagner.
Je me suis fait accompagner.
Vous étiez en train donc de réfléchir sur vous avec quelqu'un.
Tout à fait. Et puis j'ai trouvé plusieurs. Enfin, j'ai un peu tout essayé, quoi. Enfin, j'ai essayé, disons, les deux principales méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une psychanalyse.
Ouais.
Et après, à un certain moment, quand on a compris qu'on a, je sais pas moi, un père orgueilleux, une mère un peu culpabilisante, ben on a un petit peu fait le tour, j'ai l'impression, de la question.
Ouais.
Et c'est le sentiment que j'ai eu. J'allais pas spécialement mieux, en fait.
Mais vous saviez pourquoi vous étiez mal, quoi, c'est ça.
Voilà, alors...
je sais pas si c'était un avantage, mais c'est ça que vous aviez en main,
ouais.
C'est ça.
Et puis du coup, le film retranscrit en sous-texte un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'on passe par des phases, des étapes, où il y a cette remise en question très profonde que j'ai connue. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que, d'accord, j'ai compris un certain nombre de choses sur moi, mais comment faire maintenant pour aller mieux? Parce que je souffrais quand même, j'étais triste. Et bien là, je pense que le film donne 2-3 pistes.
Mais vous, dans votre histoire, donc, vous avez eu envie de faire quelque chose de ça. Ça aussi, c'était une première étape par rapport à sortir du trou.
Tout à fait. D'ailleurs,
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être donner à voir, partager, aller chercher les autres dans cette même expérience. C'est aussi ça, le film.
Complètement. La psychanalyse
ouais.
nous amène à nous regarder. Comme je ouais. dis dans le film, le nombril. Ouais. Ce qui est bien pendant une certaine période, à mon avis. Mais ensuite... Je crois que, et ça c'est les méthodes un peu plus américaines, quoi, d'aller vers du concret, de faire des choses, de passer par des actes, des choses symboliques par exemple, et faire ce film pour moi c'était ça, mais j'en avais pas forcément conscience.
Mm-hmm.
Par contre, je suis aussi passé par un autre type de thérapie qui est plus comportementaliste, où là on travaille vraiment sur comment simplement arrêter de ruminer.
Qu'est-ce que je veux et comment faire, c'est ça?
Exactement.
À la fin de la psychanalyse, on sait ce qu'on veut plus, ou on sait ce qu'on a en main avec ses points forts et ses points faibles. On ne sait pas forcément ce qu'on veut. Hein. Vous saviez pas vraiment ce que vous vouliez, j'imagine.
Bah, disons, je n'avais pas encore les outils. Et je pense qu'à un certain moment, il faut trouver les outils. Il y a des formes de thérapie dont vous parlez d'ailleurs souvent dans votre émission, parce que j'ai beaucoup suivi votre émission pendant... toute la période de réalisation du film.
Pourquoi? C'était inspirant pour vous d'entendre tous ces gens?
Tout à fait. Et d'ailleurs, je me suis inspiré en particulier de Jean-Claude Kaufmann qui parle de la jeune femme et le prince charmant.
Oui.
Ouais, où il parlait de ce moment de solitude extrême
et
d'autres moments où on se sent tellement bien d'être seul.
Mmh.
Enfin voilà, je disais donc que je m'étais beaucoup inspiré de votre émission et je ne sais plus du tout pourquoi.
On va poursuivre tout ça, Frédéric Baïf, vous êtes réalisateur. Je rappelle que vous venez de sortir un film qui est un documentaire, c'est le quatrième, hein. On va revenir un peu sur votre parcours d'ailleurs. On peut le voir à Lausanne, à la Galerie, c'est ça?
Aux Galeries,
au Cinéma Bio à Genève. Il va sortir prochainement à Fribourg et à Neuchâtel.
Tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant, et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore. Je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur aux lèvres un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. tressaillent, même encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, et ma tressaille, même encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort.
Frédéric Baillif, je voudrais revenir un bout sur votre parcours, parce que quand vous avez décidé de choisir un métier, est-ce que vous saviez ce qui vous animait ? Parce que être réalisateur aujourd'hui, ça peut ressembler à un rêve, hein ? Mais vous y avez pensé à quel moment à ça ?
Mais je crois que c'est un truc qui était en moi. Je me souviens de... j'avais beaucoup de problèmes à m'endormir quand j'étais gamin. Et il y avait pas mal de choses qui me trottaient dans la tête et je m'imaginais faire des films. Mais j'en parlais à personne. C'était presque un peu interdit, quoi.
C'est pas votre univers familial ?
Ouais, sans me l'interdire, on m'a jamais vraiment poussé dans cette direction-là. J'étais basketteur, en fait. Moi, mon rêve, c'était d'être basketteur.
Donc vous étiez très sportif ?
J'ai eu toute une période jusqu'à 25 ans où j'étais basketteur semi-professionnel et c'était ma principale activité.
Ah oui.
J'ai quand même fait des études à côté d'éducateur. Et je pense que c'est ça qui m'a... L'école, l'Institut d'études sociales où je suis allé, c'est un endroit où on vous apprend à devenir très tolérant. Et moi, j'étais pas très tolérant avant ça. J'avais l'impression d'avoir tout compris toujours, quoi. Quand j'ai fait mes études d'éducateur, j'ai compris que j'avais pas tout compris, que le monde était beaucoup plus complexe. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir.
Oui.
Et finalement, je me suis tellement ouvert que le métier d'éducateur ne me suffisait plus, que j'avais l'impression que je devais poser mon regard sur le monde.
Ouais. Mais ce n'est pas un choix innocent, enfin, aucun choix ne l'est d'ailleurs, mais d'être éducateur, c'est porteur quand même d'un projet, d'une image. C'était quoi le projet derrière ? Parce que je vois basketteur, c'est déjà faire avec les autres. On n'est pas basketteur tout seul, on est dans une équipe.
J'étais basketteur.
Il y a quelque chose à voir avec l'équipe.
J'étais basketteur, mais j'étais. Vous savez, il y a des postes dans les équipes de basket.
Non, j'y connais rien, mais je vous crois.
Donc, moi, j'étais basketteur, mais meneur de jeu.
C'est-à-dire qu'on
a un rôle quand même.
Chef des basketteurs. Donc un leader, le groupe.
Et c'est quelque chose qui me manquait, en fait, dans mon métier d'éducateur. Parce qu'on devait, toujours composer un petit peu, trouver le consensus. Et moi, j'aime bien quand même amener mon idée. J'espère que je ne suis pas un dictateur. Mais il y a peut-être un peu quelque chose de ça. J'ai besoin de porter les choses, de porter les gens. Quelque chose que, à mon avis, je tiens de mon père, je pense. Enfin, voilà. Et puis, dans le métier d'éducateur, dans mes études d'éducateur, j'ai découvert l'outil de la vidéo. Dans un atelier qui s'appelait « Outils de médiation pédagogique ». Et là, la caméra, comme tout autre outil, nous permet d'entrer en lien avec les personnes avec qui on va travailler, que ce soit des adolescents, des enfants, peu importe. Et c'est ensuite, en quittant le métier d'éducateur et en faisant des films, que j'ai compris ce que ça voulait dire, en fait. Ce que j'avais appris à l'école, c'est qu'en fait, la caméra me permettait d'être en lien.
Pourquoi vous avez quitté ce métier d'éducateur ? Il ne correspondait pas à votre aspiration ?
Il y a une forme de frustration, mais en même temps, je pense que j'étais juste trop jeune. Je crois que pour amener, j'allais dire éduquer, mais pour amener du soutien aux autres, je crois qu'il faut quand même avoir une certaine expérience de la vie. Et être éducateur à 25 ans, je crois que ça me semble pas logique. Donc je pense que j'ai eu raison. Et ça n'empêche pas que plus tard... je peux devenir un bon éducateur en même temps. Maintenant, je suis en train de mener à bien, j'ai l'impression, ma carrière de réalisateur, donc je n'aurai pas forcément de raison d'y retourner. Et puis, je crois que là, le rôle est ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire apporter mon regard sur le monde aux autres, je le fais maintenant.
Et d'une façon évidemment beaucoup plus large.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a amené à la réalisation, puisque ça ne faisait pas partie des images et des représentations de votre famille alors ? À partir de cette caméra, cette vidéo, donc. Mais vous vous êtes formé, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez fait un vrai apprentissage, en fait.
Je suis autodidacte, mais j'ai lu énormément, j'ai regardé énormément de films. Je regarde toujours beaucoup de films pour m'inspirer. Et puis, effectivement, je suis parti après une année de travail comme éducateur. Je suis parti aussi pour justement une relation amoureuse. Je suis parti aux États-Unis rejoindre une femme dont j'étais amoureux.
Et ah, puis... vous y allez carrément, vous, quand vous êtes amoureux.
Ah, ouais, non, moi je ne fais pas les choses à moitié. Et puis j'ai travaillé comme assistant de production pour des séries documentaires aux États-Unis avec des gens qui sont extrêmement doués, efficaces à l'américaine. Donc j'étais, je pense, à bonne école et ensuite je suis revenu et j'ai fait mon premier film.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce premier film ? C'est quoi qui était le plus important ?
J'avais envie d'appliquer ce que j'avais appris aux États-Unis en me disant ce que j'ai vu là, ce qu'on a fait ici, ça se fait peu chez nous. On est dans quelque chose de dynamique, les gens, le public n'a pas le temps de s'ennuyer et j'avais envie d'apporter ça, peut-être cette nouvelle manière de travailler dans le documentaire. Et je l'ai fait, je le fais, j'essaie de le faire encore aujourd'hui. J'ai envie de rendre le documentaire qui me passionne comme vraiment quelque chose qui n'est pas secondaire, qui a la même valeur que le cinéma de fiction, qui peut être aussi beau à regarder, qui peut être aussi prenant à
artistique,
travers des histoires.
Ouais.
Surtout, c'était l'attachement à des personnages, tout ce qu'on développe en dramaturgie, qui est l'évolution d'un personnage d'un point A à un point B, en passant par des étapes, en rencontrant des obstacles, en essayant de les surmonter, tout ça, sont des règles de dramaturgie qui ne sont pas forcément respectées en documentaire. Souvent, on confond le documentaire et le travail journalistique.
Oui.
Et moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai envie de faire des films qui ressemblent à de la fiction.
Donc un documentaire, mais avec une mise en scène réelle, soignée, cherchée, c'est ça ?
Avec pas forcément de la mise en scène, mais une dramaturgie plutôt, qui est efficace.
Ouais.
Le second degré qu'on retrouve dans La vie en deux, c'est un film que j'aborde avec une certaine distance. Comme ça, j'ai envie que ce soit tout simplement un film distrayant, que les gens aient du plaisir à le voir. Et là, je me suis carrément inspiré d'une part de Woody Allen... Et d'autre part, des films de Clapiche, L'Auberge espagnole, où il y a cette espèce de regard sur soi, un peu ironique.
Alors, quand vous avez construit, j'ose plus dire mise en scène, mais en tout cas le scénario, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un fil rouge, une histoire qui se déroule. Comment vous avez fait votre casting ? Vous êtes allé voir, il faut quand même des personnages qui portent quelque chose. Vous vouliez qu'ils portent quoi ?
Alors, je vous disais au début que... J'ai voulu filmer des moments de groupe.
Oui, oui. Et d'échanges.
Voilà. Et au départ, c'était que ça. Et finalement, je me suis vite rendu compte qu'en filmant que des choses comme ça, j'avais plus de dramaturgie, j'avais plus de personnages.
Oui, ça aplatissait tout, peut-être.
Ouais. Donc j'avais besoin de trouver des personnages.
Oui.
Après, il fallait que ces personnages correspondent à moi. C'est-à-dire que j'avais envie que chacun des personnages du film puisse refléter une étape de mon célibat. C'est-à-dire que j'ai construit le film comme j'ai vécu mon célibat, c'est-à-dire un peu par étapes. Il y a la rupture, il y a ensuite la remise en question. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette remise en question ? Et puis, l'ouverture au monde et le retour à la vie, en fait. Et éventuellement à l'amour. Déjà à l'amour de soi et puis ensuite éventuellement à l'amour des autres, voire d'une autre personne. Et du coup, j'ai cherché des personnages qui pouvaient chacun représenter au moins une étape, voire plusieurs, mais en tout cas au moins une, pour construire mon film de cette manière-là. On voit très bien que Vincent, par exemple, qui est le sportif du film, représente toute cette phase où on se remet en question et pour pas ruminer trop les choses dans la tête, eh ben on va courir tout simplement. Ce qui est assez classique de quelqu'un qui vient de rompre. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Et puis j'ai rencontré énormément de célibataires, parce qu'il y en a beaucoup, vraiment. Alors là, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Beaucoup ont accepté, et puis petit à petit...
Les intéressait ?
Ça les intéressait, mais ils avaient tous peur. Mais une peur invraisemblable, je ne m'y attendais pas. J'ai rencontré beaucoup moins de résistance quand j'ai fait mon film Geisendorf avec une bande de jeunes qui traînent dans un parc, qui sont quand même des jeunes... assez difficile d'accès. J'ai eu beaucoup moins de résistance avec eux qu'avec nos trentenaires célibataires bien intégrés qui ont des activités comme vous et moi, des psychologues, des avocats, des gens qui...
Mais de tous les milieux.
De tous les milieux.
De tous les univers et de tous les niveaux sociaux et économiques.
Plus ou moins, mais en même temps, c'est aussi mes fréquentations. Disons, je me suis tourné vers mes proches et leur entourage. Donc,
Donc quand même des gens qui se posent des questions.
Quand même, ouais.
hein, des gens qui prennent ce temps de recul.
Ouais, c'est cette partie-là de la société qui m'intéressait à ce moment-là.
Bien sûr.
C'est ces gens-là, c'est ceux qui me ressemblent un peu.
Bien sûr. Je rappelle que je reçois cet après-midi Frédéric Baïf et vous venez de sortir un film que vous venez de réaliser, La vie en deux. Frédéric Baïf, dans La vie en deux, vous reprenez au fond ces images, ces affirmations qui traînent, qu'on entend, qu'on lit. Les hommes et les femmes ils finissent par douter du fait qu'ils sont faits pour vivre ensemble. C'est une phrase un peu simple, mais au fond, on lit ça dans les livres. Certains livres l'ont dit, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je faisais une interview sur ce thème encore récemment. Quand vous êtes parti, vous, à l'écoute, parce que c'est ça, hein, tendre le micro à l'écoute de ces célibataires, vous me disiez à l'instant, ils ont eu très peur de s'exprimer. Ils avaient vraiment peur. De quoi est-ce qu'ils ont peur ?
Moi, je crois qu'on touche à quelque chose qui est profond. On touche à une douleur. Je parlais tout à l'heure d'un tabou. Le tabou de la solitude de ces gens bien intégrés. C'est quelque chose dont, à mon avis, on parle très peu. Et moi-même, pour moi, c'était même assez difficile de soulever le masque de mes représentations, de l'artiste, du DJ, du gars bien intégré.
Et qui réussit.
Ouais.
Qui réussit ce qu'il fait, qui est plutôt content.
Tout à fait. Je suis bien dans ma peau, en fait. Ouais. Plus ou moins. Ouais. Mais il y a quand même des moments de souffrance et il n'y a pas de raison de le cacher.
Ouais.
Je ne vois pas...
Alors, est-ce qu'il y aurait derrière la croyance, si je dis que je suis seule et que j'en souffre, c'est que j'ai quelque chose qui cloche? Cette phrase-là n'est pas dite dans le film. Mais non.
Magali, à un moment, dit quand même
oui.
Qu'est-ce que j'ai fait de faux?
Oui, c'est vrai, je me souviens de cette phrase.
C'est vrai, vers la fin du film, c'est un moment où Magali se lâche complètement, elle donne beaucoup.
Oui. Elle est triste d'ailleurs à ce moment-là, elle est très émue. Et donc c'est ça l'idée, qu'est-ce que j'ai qui cloche? C'est pour ça qu'on n'ose pas parler.
Ouais, je crois qu'on est dans un monde où il faut absolument donner une certaine image. Sinon on ne réussit pas. Et tout ça, ça avait évolué dans un bon sens. Quand les femmes se sont battues pour leur liberté et que les hommes sont devenus plus ouverts et plus sensibles.
Ça, c'est le bon côté.
C'est quelque chose qui est très bien. Maintenant, je crois qu'on n'échappe pas à une forme de société de consommation qui nous envahit, qui est, j'ai pas peur de dire, une espèce de gouffre, une espèce de gangrène. C'est-à-dire qu'on est piégé par un mode de fonctionnement, un système de pensée qui est... je prends les choses et ensuite je pourrais avoir mieux toujours. Je peux jeter et on ne répare pas, on jette. Donc on est un petit peu envahi par ce mode de fonctionnement et du coup ça envahit aussi la relation amoureuse, les sentiments. Pourquoi pas ? En fait c'est tout à fait logique.
C'est d'ailleurs quelque chose qui frappe dans le film. En tout cas moi ça m'a impressionné. C'est ce discours quand même de... je cherche une nana ou je rencontre un mec, mais si j'en ai marre, je me casse. Quoi. C'est un peu le discours.
Ouais.
C'est assez impressionnant. Hein. Ce discours était quasi dans toutes les bouches. Ouais. Parce que très rapidement, disent les hommes et les femmes, les deux, disent, au bout d'un moment, au début c'est très bien, ça dure 2-3 mois, on sait très bien, au bout d'un moment, l'autre n'est pas comme je veux, il montre des choses que je ne veux pas. C'est ça que vous appelez, vous, la consommation?
Bah ouais. Moi, j'achète un téléphone portable. Je viens d'acheter un téléphone portable. La touche option ne fonctionne pas. Je vais le changer. Donc, pourquoi ça serait différent avec autre chose? On nous a quand même bien appris à fonctionner comme ça. Oui.
Et qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qui ressort de ce que vous avez entendu et filmé?
Je crois que la génération perdue un peu en amour, que je représente, cherche... à mon avis, un nouveau mode de fonctionnement en couple. Et elle n'a pas encore trouvé parce qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas, peut-être par culpabilité par rapport à nos parents qui nous ont donné un modèle classique, couple, famille, chambre commune, etc.
Tout en commun,
ouais.
Fusion.
Ouais. Et de plus en plus, autour de moi, je me rends compte en partageant avec mes amis que le couple fusionnel, le couple où on fait tout ensemble, où on a et où forcément aujourd'hui la femme, enfin forcément c'est aussi un choix, hein, mais je pense que voilà, la femme aujourd'hui travaille autant que l'homme et du coup les gamins, il faut s'en occuper, c'est pas facile, on n'a plus de temps. Et on n'a finalement plus de temps pour tout ce que notre société nous propose, qui sont des multiples activités, enfin un nombre de choses absolument incalculables à faire pour être... intégrer, pour faire partie du monde.
Pour goûter aussi tous les plats qui passent.
Ouais.
Parce qu'ils passent toutes sortes de plats appétissants, aussi bien dans la culture, les loisirs, les relations, intellectuellement.
Mais pour une génération de gens qui ont été élevés d'une manière narcissique, c'est absolument...
Égavé de plein de choses.
C'est absolument inacceptable de passer à côté de quelque chose.
Ouais.
On n'est pas ouvert à la frustration. On n'accepte pas la frustration.
Ni la contrainte.
Exactement.
J'ai remarqué ça dans le film. Hein. Pas de contrainte, pas de frustration. Et vous mettez le doigt sur ça. Vous dites au fond, vivre sans contrainte et sans frustration, c'est quoi? C'est vivre sans véritable épanouissement? Parce qu'il faut revenir à cette frustration chronique. Hein. On n'avait pas le choix. On a vécu parfois des frustrations chroniques. Invalidantes aussi.
Je parle avec un ami banquier dernièrement. Il me dit, mais on ne peut pas revenir à l'âge de la pierre. On est embarqué comme ça dans un système. Parce que là, on parle de liberté individuelle, on peut parler aussi de libéralisme. Je veux dire, quelque part, ça se rejoint, c'est le même type de pensée. C'est moi avant tout. Comment échapper au moi avant tout? Comment s'ouvrir à nouveau vers le groupe, vers les autres, vers la famille. Alors, moi, j'ai pas de solution. Et puis, c'est trop difficile de donner une solution. Mais personnellement, d'un point de vue très personnel, je m'inspire énormément de l'Afrique, quoi, et des modes de fonctionnement.
Pourquoi ? D'ailleurs, il y a deux témoignages, en effet, de jeunes femmes.
Parce que des valeurs qu'on a perdues subsistent encore là-bas.
Donc des valeurs de solidarité, des choses comme ça.
En tout cas, la solitude n'existe pratiquement pas telle que nous on la vit ici. Donc, je ne dis pas qu'il faut, comme dit mon ami banquier, revenir à l'âge de la pierre. Mais je pense qu'on peut, en essayant de retrouver notre manière, notre mode de fonctionnement en couple, pourquoi pas s'inspirer de ces modèles-là qui sont finalement en fait des choses que nous, on a connues il y a très peu de temps. Hein. Mm-hmm. On était encore très solidaires il n'y a pas si longtemps ici en Occident. Mm-hmm.
Alors, parfois la solidarité dans le temps a écrasé l'individu dans ses aspirations légitimes et personnelles. Mmh. Or, vous dites, vous, dans le film, et vous le disiez là tout à l'heure, besoin d'avoir une étape pour savoir qui je suis, être proche de moi. Le problème, c'est que dans le film, vous montrez, au fond, ça tourne en rond, quoi. Au bout d'un moment, à force de chercher qui je suis, on tombe dedans et on n'en sort plus, c'est ça.
C'est la conclusion de mon film.
Parce qu'ils disent, tout ça quoi, dans le film, vos témoins.
On a un personnage dans le film qui s'appelle David.
Oui.
Qui est pour moi vraiment le, je sais pas, personnage central du film. Parce que c'est le personnage qui évolue le plus.
Oui.
Au début du film, il est dans une situation catastrophique. Il vient de se faire
plaquer.
Il est au fond du trou, il repeint son appartement. C'est une scène extrêmement, je trouve, assez bouleversante, quoi. Et David, à la fin du film, décide de partir en voyage et tourner la page quelque part. Et en fait, on a eu une projection, une avant-première, il y a une semaine. Il était là, il y avait beaucoup de monde, les gens ont très bien réagi au film. Et lui était rayonnant, quoi.
Il rentrait de son voyage ?
Non, il était en train de partir.
Ah là, il était en train de partir, ouais. D'accord.
Ouais, c'est-à-dire que dans le film, il prévoyait de partir en voyage. Et là, il est parti il y a une semaine, enfin il y a quelques jours. Là.
Ouais.
Et il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, Fred, tu sais, ça fait du bien, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir tourné une page.
Ouais.
Et donc, voilà, quand je l'ai rencontré, il était dans cette phase de rumination. Et j'avais énormément envie de parler de ces choses-là, des ruminations, de tout ce qu'on peut répéter sans cesse dans la tête, puis finalement c'est ce qui nous empêche d'être ouvert aux autres, puisqu'on est forcément, logiquement centré sur soi-même. Mmh. Alors de ce côté très narcissique, on essaie d'en faire quelque chose.
Mmh.
Et de faire ce film, ça a été pour, en tout cas pour David, de se recentrer, aussi une manière de se recentrer sur lui-même, mais en donnant aux autres. C'est quand même intéressant, hein.
Mmh. Et comment est-ce que vous avez reçu, et puisque vous avez choisi les témoins, je parle du témoignage des femmes, comment vous les avez écoutées ? Il y a Magali, mais il y en a d'autres. Il y a une certaine dureté, il y a un certain défaitisme. Bon, il y a la dimension, bien sûr, je veux faire carrière, mais c'est peut-être pas une cause. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'elle veut faire carrière que pour finir, elle est un peu fermée et endurcie. Mais il y a aussi la jeune femme qui, elle est institutrice.
Laure.
Ouais, Laure, voilà. Elle campe aussi sur ses positions de célibataire. Comment vous avez reçu leur témoignage de femme un peu défiante comme ça vis-à-vis de l'homme ?
Magali, c'est pour moi un très bon exemple, parce que Magali, c'est un personnage dans le film qui est, comme vous disiez, presque agressif au début, sur la défensive. Et c'était dur pour moi, parce que j'ai besoin que les personnages évoluent, sinon il n'y a pas de film. Donc, je lui ai dit ça, tout simplement. Je suis allé la voir, j'ai dit, Magali, écoute, ça ne va pas, quoi. Pour l'instant, tout ce que tu me donnes à l'image, c'est un personnage qui est antipathique. Et tu peux pas, parce que moi je sais que t'es pas seulement antipathique. Je sais que ce que tu donnes là, c'est une défense. Et j'ai besoin que tu fasses tomber tes mécanismes de défense. Et j'ai besoin que tu me donnes vraiment qui tu es au fond. Pour moi, tu exprimes une souffrance là. Mais j'ai besoin de savoir ce que c'est cette souffrance. Et ça faisait déjà 6 mois qu'on tournait ensemble. on avait bien avancé, quoi, mais il y avait toujours cette résistance. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a fait un interview posé simplement, alors que dans le film, il y a très peu d'interviews de ce genre-là. Hein.
Oui.
On est beaucoup plus dans des moments de réalité, ce que je préfère. Je suis pas,
oui, de mise en situation.
Ouais. J'ai envie de faire des films, j'ai envie de faire des films sans interview normalement, mais là, c'était inévitable. Il fallait faire un tête-à-tête, comme vous dites. Et je lui ai dit, Magali, je vais te charcuter. Elle a dit, ok, charcute-moi. Et là, on s'est mis l'un en face de l'autre avec la caméra. Et
quelles ont été les questions qui l'ont fait chavirer? Parce qu'on sent un moment le chavire. Ouais,
ouais, c'est, je lui ai dit, pourquoi tu te protèges comme ça, quoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te donner, me dire vraiment ce que tu ressens au fond de toi? Et là, c'est parti, elle est... Elle s'est mise à pleurer, puis elle a vraiment donné ce qu'il fallait. Et à mon avis, sans ce moment-là, il n'y a pas de film. Je pense pas. C'est un peu ce qu'on appelle le climax en termes cinéma. Et j'ai fait ça avec Estelle également, parce qu'Estelle aussi se protégeait beaucoup. Chaque fois qu'elle avait quelque chose d'important à dévoiler, elle baissait le ton de la voix d'une manière assez impressionnante. Je lui disais, mais pourquoi chaque fois que tu dis quelque chose d'important, on ne l'entend pas? C'est quand même incroyable. Et petit à petit, le chemin s'est fait aussi. Mais il faut quand même savoir qu'on a une vraie immersion. Là. J'ai quand même une année pratiquement de tournage avec ces personnes. Oui. Donc le climat de confiance s'installe petit à petit.
Qu'est-ce que vous avez retenu d'important, par exemple, dans cette perception que les femmes ont de l'amour et du couple? Qu'est-ce qui les fait le plus souffrir? Qu'est-ce qui était le plus douloureux pour elles? Qui pourrait être générique, hein, qui pourrait...
Je crois que c'est étroitement lié à ce que je disais tout à l'heure, la société de consommation. C'est qu'elles ont l'impression de jamais être à la hauteur. Elles ont l'impression qu'elles doivent être non seulement extrêmement intelligentes...
Et réussissantes.
Ouais, dynamiques, mais en même temps, ça doit être des bombes atomiques. Elles doivent être belles, soignées, douces,
sexy,
attentionnées.
Ouais.
Enfin, tout, quoi. Ce qui est absolument impossible, en fait. Et puis, pour les hommes, c'est pareil. Donc, on est piégé.
Je reçois cet après-midi Frédéric Baïf. Nous parlons du film qui vient de sortir, que vous avez réalisé, qui s'appelle La vie en deux. Si vous souhaitez obtenir un enregistrement de cette émission, vous pouvez dès maintenant téléphoner au 026 323 24 24.
On n'invente pas un sentiment. Les baisers donnent l'alphabet. L'amour nous griffe, ouvre ses plaies. L'amour nous soigne, l'amour nous fait. On aime comme on a été aimé. C'est cela qui nous fait courir. De reproduire et faire grandir ce qui nous a été donné sans jamais pouvoir en parler. On aime comme on a été aimé. Les chiens ne font pas des chats, et que l'on est que ce qu'on connaît, qu'on désire ce qu'on ne connaît pas, un autre chien, un autre chat, on aime comme on a été aimé. Toutes ces secondes dérobée à l'emporte-pièce,
les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse. On aime comme on a été aimé.
Frédéric Baïf, si les femmes sont dans votre film, qui est un documentaire, hein, la vie en deux, si les femmes apparaissent évidemment un peu dures, un peu caricaturales, un peu protégées, un peu, qui veulent au fond garder le contrôle, hein, de la relation, les hommes en face, ils ont presque lâché les armes. Enfin, ceux que vous avez choisis, ils pleurent, ils en parlent, ils disent qu'ils pleurent. Ils disent qu'ils sont tristes. Il a fallu du temps et du talent, je pense, pour qu'ils vous disent tout ça. Mais je les trouve émouvants, moi, ces hommes que vous avez choisis. Et ils font même envie d'aller rencontrer cette sensibilité. Est-ce que ça a été facile d'obtenir ça d'eux? Et qu'est-ce que ça dit des hommes d'aujourd'hui?
Ça a été très difficile d'obtenir ça d'eux. Mais en même temps, il faut être réaliste. Eux, ils parlent de pleurer. Mais dans le film, c'est les femmes qui pleurent.
C'est vrai.
Réellement. Donc, je crois que l'homme a appris aussi à exprimer un certain nombre de choses.
Bon, il pleure peut-être tout seul.
Ouais. Mais n'empêche qu'il y a quand même, il y a toujours une certaine image à garder de l'homme. Mais bon, ils sont quand même. C'est pas facile, quoi, pour un homme aujourd'hui. Il faut, comme je disais tout à l'heure par rapport à la femme, c'est pareil pour l'homme. Lui, il doit être touchant, sensible et en même temps macho. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Peut-être pas macho, d'ailleurs.
Vous savez, il y a énormément de femmes qui disent qu'elles adorent les hommes macho.
Ah oui.
Bien sûr.
Parce qu'elles veulent dire masculin.
Ouais. Une femme, pendant mes repérages, une protagoniste potentielle du film m'a dit qu'elle trouvait pas du tout sexy un mec qui fait la vaisselle. Donc, vous voyez, c'est compliqué.
Il ne faut pas qu'elle se plaigne si elle l'a fait toute seule. Sa vaisselle. Ouais. Qu'est-ce qui apparaît pour vous à la fin du film? Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que ces gens-là qui vivent sur deux planètes, pour reprendre l'image, qui sont célibataires, non pas parce qu'ils le choisissent, mais pour ne pas souffrir, quelque part, il s'agit bien de ça, au fond. C'est par défaut que les gens décident de vivre seuls.
Complètement.
Hein, donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous, à la fin du film? Qu'est-ce qui vous apparaît fort, vous?
Ce qui me semble important, c'est que j'ai l'impression que d'un point de vue personnel, je ne suis plus dans la souffrance, déjà. Ça, c'est très important. Même si, je le répète, je ne fais pas des films psychothérapeutiques, malgré tout, je n'échappe pas au fait que de faire des films, c'est ma thérapie. Ça, c'est comme ça. Ça me permet d'avancer. Là, ça m'a permis clairement d'avancer, puisque aujourd'hui, je me sens bien. Même si je suis toujours célibataire, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un certain nombre de... Exactement comme David l'exprime dans le film, d'ailleurs. Il dit à un certain moment, il dit, j'ai arrêté de ruminer, je retrouve mon sens de l'humour, mon pouvoir de séduction, des choses comme ça.
Donc la joie de vivre.
Ouais,
ouais.
Tout à fait. Et en plus, le film sort au printemps, donc ça aide.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire différemment, vous, dans votre prochaine relation ou Est-ce que vous avez appris des choses sur les relations hommes-femmes à travers ces témoignages et cette réflexion?
Je crois qu'on a tous un petit peu appris à voir ce qu'on ne veut plus.
Ouais.
On ne veut plus souffrir comme ça.
Oui.
J'ai pas envie de devoir refaire un film à 40 ans là-dessus. Non, mais je crois qu'on a fait tous un certain chemin. Maintenant, concrètement, ça va pas être évident. On sait très bien qu'on est face à un problème de société qui est extrêmement important et qui se voit aujourd'hui dans la réalité des couples. Moi, j'ai l'impression d'être capable aujourd'hui de réinventer le couple.
C'est-à-dire et ça serait quoi dans votre représentation à vous ? Ça serait quoi le réinventer ? Pour vivre comment ? Sous quelle forme ?
C'est éviter de toutes les manières possibles le couple fusionnel.
Ouais, où on fait tout ensemble, collé, et où on s'asphyxie mutuellement.
Complètement. Ça, pour moi, c'est une des solutions. Quoi.
Et alors, ça veut dire ne pas vivre ensemble ? On retrouve dans cette espèce de solitude ? Ça veut dire quoi ?
Pour moi, ça veut dire vivre ensemble, ça veut dire ne pas s'asphyxier, comme vous disiez, mais également par le travail. Je crois qu'on est complètement fou de travailler autant.
Oui.
Et on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent, on n'a pas besoin de consommer autant. Et du coup, pour moi, la solution, c'est d'avoir beaucoup plus de temps pour les autres, et pas seulement, forcément, pour sa femme et ses enfants, mais également pour l'entourage proche. Et puis, également, s'octroyer des moments de nombril. Ouais. Je crois que c'est toujours une question d'équilibre et de choix. Et nous, on est une génération de gens qui ont vraiment un gros problème avec le choix. Donc, essayons. De mettre un petit peu de côté les choses qui sont peut-être moins importantes.
Quand vous dites qu'on a un problème de choix, ça veut dire quoi ?
Sans être forcément dans un fonctionnement binaire, peut-être faire déjà le deuil d'un certain nombre de choses. Quoi.
Donc réapprendre d'une certaine façon à vivre avec la frustration.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait le deuil du basket aujourd'hui, par exemple.
Ouais.
Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait.
Ouais. Et pour faire quoi à la place ? Pour promouvoir quoi dans votre vie ?
Le cinéma ?
Oui.
La rencontre avec les autres, mon ouverture au monde. Voilà. Il ne faut pas passer tout son temps à s'occuper que de soi. Dans le film, on a Vincent qui passe son temps à s'occuper uniquement de lui-même. Et finalement, il ne souffre pas aux autres. Et c'est un problème. Et il en souffre. Et il le dit dans le film.
Mmh. Il cherche. Hein, il cherche la porte de sortie. Ouais. Ce film, rappelez-nous, il sort, il est déjà à Lausanne. Hein.
Aux galeries.
Voilà, aux galeries. Il est aussi au Bio de Genève, à Carouge. Il va sortir à Fribourg, vous en connaissez la date ?
Non, pas encore.
Et Neuchâtel, Fribourg, très
Fribourg,
prochainement.
Fribourg, c'est la semaine prochaine et la date de Neuchâtel n'est pas connue.
Le retour des gens ? Les jeunes, notamment, les trentenaires, ce dont vous parlez, là, ça se passe comment ?
Non, mais c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que je reçois tous les jours des emails des gens qui ont été extrêmement touchés. Et en particulier, effectivement, les trentenaires et les célibataires, évidemment. J'ai l'impression de soulever un truc, et ça je ne m'en rendais pas compte au départ, un vrai tabou. Parler de ma solitude ouvertement et de celle des autres permet de faire un lien. Il y a un lien qui se crée entre les gens. Les gens se sentent beaucoup moins seuls. Les gens qui sortent de la salle, déjà se sont vraiment marrés parce que le film est drôle. J'ai assumé dès le départ l'envie de faire une comédie. Hein, c'est un documentaire, mais c'est une comédie, donc c'est presque un nouveau genre. Et les gens sont pliés de rire, les gens sont touchés, émus, et à la fin, on a l'impression d'être moins seul. Donc pour moi,
on a peut-être envie de se parler d'ailleurs dès qu'ils se lèvent du fauteuil de cinéma.
Tout à fait. On a eu des échanges après les films qui sont extrêmement forts. On a des gens qui viennent. Vincent, un des protagonistes, s'est fait ouvertement draguer par une.
Tout n'est pas perdu pour Vincent.
Tout à fait.
Et la génération de vos parents, Frédéric, comment est-ce qu'ils réagissent ?
Ils sont à la fois touchés, mais en même temps assez tristes, parce qu'ils ont l'impression d'être responsables un peu de tout ça.
Eux-mêmes vivent beaucoup de solitude. Hein. Ils ont des couples qui éclatent régulièrement.
Ils ont inventé le divorce pour nous et ça marche.
Oui. Qu'est-ce qu'ils nous font réinventer, donc, là, tous ensemble ?
Il faut réinventer un autre système de pensée qui est lié aussi au système qu'on appelle le système économique et tout ça. Je crois qu'il faut réinventer un monde ouvert aux autres.
De partage.
Ouais, tout à fait. C'est une catastrophe, là.
Merci, Frédéric Baïf. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tu es changé, t'es pas plus beau vu dehors. les hommes et les femmes, mode d'emploi. Avec Edelweiss, le magazine mensuel féminin.
Vous écoutez Radio Suisse Romande la Première, il est 14h.